un autre regard.
C'est complètement possible de franchir ce qui était des barrières avant.
C'est dicton, rien sur nous sans nous, en gros. Quoi. Voilà, on veut participer aussi.
Un autre regard sur le handicap psychique.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur l'autre radio. Donc aujourd'hui, une émission L'autre regard. Nous sommes accompagnés d'Arnaud et l'équipe du SPID et Catherine et Alissa qui vont nous raconter un peu leur parcours. Arnaud,
Bonjour à tous. Merci de venir dans nos locaux ce matin. On rappelle qu'on fait partie du collectif Santé Mentale 53 avec plusieurs acteurs du tissu mayennais. Et aujourd'hui, nous sommes en terrain du Château-Gontier, en tout cas au Castro-Gontérien. En tout cas, nous sommes au sud de la Mayenne où il fait un soleil magnifique. Aujourd'hui, l'équipe du SPID, où on va pouvoir commencer par rencontrer Isabelle et Florence qui sont professionnelles sur ce service. Bonjour mesdames.
Bonjour. Donc moi c'est Florence, effectivement je suis une infirmière du centre hospitalier du Haut-Anjou et dans ce cadre-là il y a le SPID. Alors le SPID c'est soins psychiatriques de particulière intensité à domicile.
Donc c'est D'accord. assez, excuse-moi Florence, c'est assez récent comme
oui,
dispositif.
Novembre 2020.
On peut appeler ça un dispositif mayennais qui est assez innovant.
Tout à fait, c'est ouvert depuis novembre 2020.
Ok.
Du coup, donc c'est une équipe, donc il y a deux psychiatres
ouais.
qui sont référents. On est trois infirmières, il y a un cadre de santé, une secrétaire là récemment arrivée qui est là à temps partiel.
Ok.
Et voilà, du coup...
Des infirmières issues du service de la psychiatrie, c'est un...
Voilà, oui, ouais. On a toutes travaillé en psychiatrie avec différents cursus, en hôpital de jour, en CMP, en hospitalisation.
Ouais.
Et avant d'intégrer ce service.
Ok. Est-ce que le projet a été un peu construit en amont avec vous ou voilà, comment
oui.
ça s'est construit un petit peu
Oui, tout à fait. Enfin, c'était une demande au départ de l'ARS, en fait, de favoriser le soin à domicile. Et puis, du coup, le cadre de pôle était très preneur. Du coup, le projet, en fait, il a été construit depuis longtemps.
Ouais. Enfin,
c'était déjà une idée depuis longtemps qui émergeait. Et puis, en fait, là, avec le Covid aussi, ça a accéléré les choses. Et puis, la demande de l'ARS, du coup, ça a été mis en place, nous, un petit peu après Laval.
Donc, SPID, ça veut dire quoi, en fait?
Ça veut dire c'est les soins. Donc, c'est les soins psychiatriques de particulière intensité à domicile. C'est-à-dire que... on peut intensifier les soins. Enfin, on n'a pas de... La durée, elle peut être... Si, par exemple, les gens ont besoin qu'on passe deux fois par jour, on passe deux fois par jour. On se rend disponible, en fait.
Okay.
Intensif, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus le... s'il y a vraiment un besoin, on y va. Ou des fois, c'est des coups de fil. Après, c'est surtout au début de prise en charge qu'on vient assez souvent. Puis après, ça s'espace. Mais on essaye de se rendre le plus disponible possible.
On parle d'hospitalisation hors mur.
C'est ça. Les gens sont vraiment dans leur domicile.
D'accord. Et c'est des parcours qui sont souhaités par les personnes. Comment les personnes, elles arrivent dans votre service? Je vois Catherine qui souhaite parler. Dites-moi, Catherine, comment ça s'est passé pour vous?
Eh bien, moi, ça s'est passé de la manière suivante.
Bon.
J'ai demandé à être hospitalisée et on m'a répondu qu'il n'y avait pas de place en hospitalisation, mais qu'on me proposait le service du SPID pour pallier à mes besoins du moment.
Ok.
Voilà.
Donc vous n'étiez pas dans l'hôpital et ensuite on vous a proposé ce service.
Non.
Vous aviez besoin d'une hospitalisation et on vous a proposé des passages à domicile.
Tout à fait. C'est le SPID répond à une notion d'hospitalisation à domicile, en fait.
Oui, c'est bien ça.
C'est la formule, en fait.
Une hospitalisation à domicile.
Tout à fait.
Et c'est quelque chose qui vous a convenu?
Au début, ce n'était pas évident, parce que moi, ce que je voulais, c'est être dans les murs...
Ouais.
Être dans les murs de la psychiatrie pour me sentir en sécurité.
C'est ça.
Le besoin de sécurité, très bien.
C'était un sentiment de sécurité qui me manquait. Donc, et le fait que le SPID existe et pallie à ma et réponde à ma demande a fait que, en fait, peu à peu, je me suis rendu compte que ça me convenait tout à fait.
Ça vous a sécurisé tout autant, finalement ?
Oui, mais il faut préciser une chose, c'est pas la formule du SPID qui, pour moi, m'a convenu.
Mm-hmm.
Moi, c'était le contact avec le personnel.
Ok. de pouvoir avoir ce contact assez, voilà, assez rapproché, assez en direct.
Comme vient de l'expliquer Laurence, effectivement, elles sont très réactives, très réceptives, très à l'écoute. Elles ont des réponses complètement adaptées. Je suis prêt à recommencer, quoi.
Bon.
C'est agréable à entendre Isabelle et Florence rire, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de compliments d'un coup. Vous parlez de réactivité.
Elles sont au courant.
Elles sont au courant déjà. Tout a été dit.
Mais j'ai tellement été bien que. Oh là là, j'étais prête à les embrasser de la tête aux pieds, quoi.
Pas évident en cette période, mais. Je vois bien l'image quand même. Vous parlez de réactivité. Comment vous entendez ce mot-là, Isabelle? Qu'est-ce qui fait que votre service est réactif?
C'est-à-dire que nous, on a très peu de prises en charge. Enfin, très peu. On en a une dizaine. On n'a pas de nombre défini non plus. Ça dépend de l'intensité des prises en soins. Mais on essaye de se rendre disponible. Et jusqu'à maintenant, on a toujours réussi à répondre aux demandes des personnes qui étaient dans une demande plus rapprochée. Oui. Mmh.
Concrètement, donc vous allez à domicile. Est-ce que vous accompagnez un peu sur l'extérieur? Est-ce que ça s'incarne que par le domicile ou vraiment voilà, il y a autre chose, il y a de la coordination aussi un petit peu avec le médecin traitant. Je sais pas, moi je dis ça comme ça. Mais...
Oui, on est en lien avec l'extérieur aussi, voilà. Et il y a des accompagnements à l'extérieur. En fait, c'est une prise en soin, on va dire personnalisée, en fonction des demandes et des besoins de la personne. Je vois, Alissa, vous pouvez peut-être justement parler, parce qu'on vous a... coup, on ne vous a pas accompagné, mais c'était prévu qu'on vous accompagne, notamment sur des démarches extérieures. Et ça, ce n'était pas fait, mais c'est des choses qui sont tout à fait possibles et qui ont déjà été faites.
Ouais, Alissa, par exemple.
Quand j'étais suivie par le SPID, donc à un moment, j'avais plus de travail, j'étais en arrêt de travail. Et je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Enfin, je sais ce que je voulais faire plus tard, mais je ne savais pas comment atteindre l'objectif. Du coup, notamment Isabelle, qui m'a fortement accompagnée là-dedans, elle m'a incité à aller à la mission locale. Mmh. Et depuis que j'ai pris le rendez-vous avec elle, elle devait m'accompagner, mais il y a eu un problème. Mais j'y suis quand même allée, du coup. Et ça m'a poussée à faire la démarche. Et du coup, maintenant, je suis inscrite là-bas. Je fais des démarches. Et là, dans mon projet professionnel, j'avance quand même pas mal.
Très bien, très bien.
Et c'est des choses qui auraient peut-être été plus compliquées à faire dans le cadre d'une hospitalisation pure, du coup.
Oui.
Le fait d'être chez vous, d'être en lien avec vos habitudes.
Surtout que, moi, j'ai été dans l'hôpital même deux fois. Mmh. Et qu'on est vraiment coupé du monde extérieur. On peut pas vraiment parler avec l'extérieur à part par téléphone, mais moi je préfère le contact avec les gens, donc voir directement les personnes à la mission locale, tout ça, ça m'a permis aussi, ça m'a aidé de pouvoir sortir, parce que l'hôpital c'est pas forcément un lieu très agréable aussi.
Ben, on a parlé de sécurité tout à l'heure, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Dans le cadre d'une hospitalisation, il y a beaucoup de gens qui parlent de sécurité, mais là on voit bien la dynamique de projet. Et l'intérêt de rester en fait sur votre lieu de vie, soutenu par un service, pour avancer et continuer. Sinon, ça aurait pu mettre à l'arrêt votre projet sur quelques mois, quelques semaines. Donc, il y a une continuité avec l'extérieur qui est intéressante.
Oui.
Et puis, il y a aussi, on voit bien le fait que peut-être que vous connaissez bien le tissu local. Par exemple, pour aller vers la mission locale, ça permet de donner des infos et d'aller jusqu'au bout, quoi. C'est vrai qu'en hospice, c'est peut-être un peu plus hospitalo-centré, on va dire. Enfin, on est un petit peu plus, on tourne en rond sur l'hôpital, quoi, je pense.
Et comment on vous a présenté le service, du coup, Alissa?
Alors, moi, au début, j'ai été pris en charge aux urgences et on m'avait parlé juste du SPID. Après, je suis allée à l'hôpital au final parce qu'il y avait de la place et que j'en avais besoin. Et après, je suis ressortie et puisque j'étais pas totalement apte à être toute seule tout le temps, donc on m'a proposé le SPID pour m'accompagner, pouvoir parler tous les jours à quelqu'un, avoir des objectifs aussi chez moi parce que j'avais pas forcément de motivation. Donc, passer tous les jours, me donner des objectifs, faire le ménage. Mais après, ça m'a quand même aidé à bouger. Ça aide quand même pas mal.
Et donc, il y a ce phénomène de peut-être un ou deux passages par jour. Et puis, petit à petit, ça s'estompe. Petit à petit, vous reprenez les rênes de votre parcours. Et à un moment donné, ça s'arrête. Il y a une possibilité de revenir, il y a une possibilité de retour sur une hospitalisation, de refaire appel au SPID. Comment ça se passe
Moi, dans mon cas, c'est... elles étaient là au début tous les jours. Après, elles sont devenues tous les deux jours à peu près. Après, je suis retournée à l'hôpital. Donc après, elles m'ont repris en charge. Avant de retourner à l'hôpital, je devais être repris par une autre infirmière. Mm-hmm. Sauf que du coup, je suis retournée à l'hôpital. Donc elles m'ont repris après. Et là, du coup, ça fait un mois, un truc comme ça, qu'elles m'ont lâchée.
Aïe. Aïe, la séparation n'a pas été simple.
On n'a pas eu le rendez-vous pour se dire au revoir, du coup, c'était un peu compliqué. Mais...
Donc on prend rendez-vous maintenant, du coup. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va suffire? Mais il y a cette flexibilité, c'est-à-dire les personnes accompagnées, les personnes suivies peuvent continuer à vous appeler, peuvent revenir vers l'hôpital, peuvent directement vous contacter?
Nous, la prise en soin au départ, elle est mise en place pour un mois, qui peut être renouvelable une fois. Alors après, c'est flexible, hein. C'est pas un mois juste ou c'est pas deux mois juste, voilà. C'est flexible. Et oui, après, en général, on passe le relais soit avec le CMP, le centre médico-psychologique. Il peut avoir un suivi psychologique. Il y a toujours le suivi avec le psychiatre en général. Et du coup...
Non, les gens à l'hôpital sont informés de ce genre de service. Ils ont la possibilité de se saisir en disant voilà, j'ai envie de sortir, mais j'aimerais avoir un soutien plus spécifique avec une équipe comme la vôtre. C'est des choses qui se... Comment les gens sont identifiés ?
Il faut que ce soit initié par un médecin psychiatre. Il faut une prescription.
Un médecin psychiatre qui prescrit, et puis on voit bien le souhait de la personne.
Voilà tout à fait.
Essentiellement, vous êtes basé là-dessus.
Oui.
Sur la notion de ménage, parce qu'on en parlait dans la voiture avec Arnaud tout à l'heure. Non, mais vraiment, c'est un soutien sur un temps donné. Vous allez jusqu'au bout de la prise en charge. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez ressenti, par exemple, le besoin d'une aide à domicile, etc. Ou c'est juste ponctuel, quoi. Ce temps de coup de main sur l'entretien du logement. Ça m'intéresse, l'entretien du logement. beaucoup de gens ont des difficultés parfois sur un temps ponctuel d'entretien du logement. Est-ce que les collègues infirmières vous ont aidé à vous stimuler à faire ça?
Du coup, quand elles passaient tous les jours, je leur disais « oui, j'ai ça à faire ». Et du coup, elles m'ont dit, par exemple, « demain, on repasse ». Ça va être fait, comme ça j'aurai au moins avancé un petit peu. Et...
D'accord. Voilà, c'est ça. Le fait de poser des objectifs quotidiens avec les collègues infirmières, ça vous motivait à faire et vous le faisiez finalement vous-même. Oui. D'accord. Non, mais c'est un peu ça que je vais...
Et pour vous, Catherine, le soutien à domicile, ça consistait en quoi? L'équipe du SPID
Alors, moi, au début, j'étais pas très convaincue. Moi, je faisais une fixette sur l'hospitalisation à domicile. Donc au début, elles sont venues tous les trois jours. Et puis finalement, je leur ai demandé au bout d'une semaine de venir tous les jours.
D'accord.
Parce que j'avais, découvrant les bénéfices et leur qualité de service au quotidien, je me suis dit, ah non, il faut que tu les vois tous les jours.
Il y a eu quelque chose de validé dans le fait qu'elle passe chez
complètement,
vous.
Complètement.
Une confiance.
Et il y a une je ne sais pas si ça a été le cas pour toi, Alicia, mais moi, elles m'ont conseillé d'acheter un cahier et d'écrire tout sur tout. Mmh. D'écrire ses objectifs ou d'écrire ce qui n'allait pas en 24 heures, ou etc.
Un cahier de bord? Un cahier de bord, un petit peu.
Et voilà, un cahier de bord, etc. D'accord.
Ouais. Ça vous a bien aidé?
Ah oui, bien sûr. Le fait d'exprimer les choses sur du papier ou les exprimer oralement, du moment que c'est sorti, ça sort, c'est un début de guérison, quoi. Il y a quelque chose qui est digéré quand c'est visualisé, quand c'est oralisé, ça aide au bénéfice de la thérapie.
Mais j'entends bien. Florence, comment vous construisez ces outils? Comment ça? C'est avec les personnes individuellement? Vous avez déjà une sorte de panier avec des recettes miracles? Ou comment vous envisagez les accompagnements chez les personnes?
C'est vraiment au cas par cas, en fait. Il faut d'abord... au départ, on fait connaissance. Il faut un petit peu de temps pour que les personnes aient confiance. Et puis, nous, on situe un petit peu les besoins. Puis, ça prend un petit peu du temps à se construire. Puis après, c'est vraiment en fonction des personnes et puis de leurs difficultés qu'on essaye d'ajuster si ça se situe au niveau du ménage ou de pousser des objectifs. Puis il y a des gens qui sont sensibles à l'écrit, d'autres pas. Donc vraiment, on s'adapte, on construit les choses avec les gens et puis en fonction aussi de leurs besoins et puis de ce qu'on ressent qu'ils ont, ce qu'ils ont envie. Après, nous, on a des petits outils différents qu'on utilise en fonction de notre parcours. À l'hôpital de jour, moi, j'avais fait pas mal de médiation, donc ça peut aider. Mon autre collègue, elle a aussi d'autres, elle est plus sensible, par exemple, à tout ce qui est respiration. Donc voilà, c'est avec aussi notre personnalité qu'on apporte des choses. Isabelle aussi, elle a ses petits outils. Enfin, on fait avec ce qu'on aime et on essaye de bâtir ensemble un projet. Et puis on est toujours toutes les trois en lien, en fait, pour aller dans le même sens toutes les trois.
Okay. Merci beaucoup. Super. On va écouter une petite musique là, si vous êtes d'accord. Il y a un artiste mayennais qui nous a proposé un petit son aujourd'hui. Il s'appelle Lenny. Il se définit comme artiste indépendant qui fait de la musique relaxante. Et pendant le confinement et puis depuis, il s'est découvert donc une passion pour la musique et il a fait un album qu'il a appelé Jardin. Et son premier titre s'appelle Arrosoir. On va l'écouter tout de suite. Très sympa. Super, très sympa. On aura peut-être l'occasion d'écouter un deuxième titre tout à l'heure. Donc on revient, nous sommes toujours avec l'équipe Speed et deux personnes qui ont pu profiter des services de l'équipe. Ici, donc Florence et Isabelle qui sont professionnels de ce service. On a parlé de relations de confiance, on a parlé de comment arriver dans le service. Est-ce que vous voulez repréciser deux, trois choses sur vos missions, sur l'accueil que vous pouvez faire et des prestations que vous pouvez offrir ? Ça peut être Florence ou Isabelle.
Alors, ne vous battez pas.
Pour reprendre en l'ordre, le premier point, vous vouliez aborder.
La relation de confiance, en fait, j'entends bien que vous avez un accueil sur un mois, vous proposez un service sur un mois renouvelable, un mois.
Oui.
Et je me dis, vous rentrez chez quelqu'un qui est sensiblement, peut-être, qui aurait pu être hospitalisé sur cette période-là.
Oui.
C'est peut-être pas la meilleure façon pour rentrer en relation avec quelqu'un. Comment ça se passe pour vraiment être acceptée chez la personne et qu'elle soit ouverte à des échanges, un travail? On parle très vite d'objectifs. Comment ça se passe très concrètement?
Au départ, il y avait quand même une rencontre à chaque fois avec le psychiatre. D'abord, il y a le psychiatre qui prescrit. Et après, du coup, nous, c'est validé par le psychiatre et toute l'équipe, en fait. Donc, à la première rencontre, il y a le psychiatre qui est là. Des fois, il y a même deux psychiatres et puis nous de l'équipe. Et du coup, ensemble aussi... on explique les choses qu'on va faire, les entretiens. On fixe aussi, on a un petit document où on fixe ensemble les objectifs avec la personne qui va bénéficier des soins et le psychiatre, et puis nous. Et puis après, c'est une toute petite charte, mais du coup, où la personne, elle accepte justement qu'on vient au domicile. Si nous, on est assez vigilants aux chiens, par exemple, pour pas qu'on se fasse mordre, qu'on soit accepté. Enfin, il y a un contrat que ils acceptent les soins, aussi de prendre le traitement, ça fait partie. Donc on a des petites conditions quand même qui sont mises. Les objectifs peuvent être réajustables, mais du coup ça permet aussi de marquer un cadre qui sera bien défini. Et puis le mois, c'est un mois, mais il y a des gens même, ça s'arrête un petit peu plus tôt, parce qu'il y a d'autres projets où ça va mieux, et puis d'autres, si on sent qu'il faut un peu plus de temps, on met un peu plus de temps, mais c'est quand même pour fixer un petit peu, pour dire qu'il y aura vraiment un temps d'arrêt. C'est pas quelque chose qui va
perdurer sur des années, sinon le relais se fait ailleurs, quoi, ouais. C'est ça.
Et puis après, on parle de confiance ou de relation, on a quand même une expérience. On a fait beaucoup de CMP, beaucoup déjà de visites à domicile. Donc, D'accord. Du coup, dans la relation, pour ma part, moi, je suis assez à l'aise à domicile. C'est quelque chose qui ne met pas du tout de frein, au contraire. Et puis, je trouve que le domicile, c'est un avantage, c'est que on rentre aussi dans l'intimité, mais du coup, on voit à quoi la personne s'intéresse, si c'est à la musique, si c'est aux animaux, si c'est la campagne. Du coup, ça nous donne aussi des billes tout de suite pour voir à quoi la personne est sensible et puis d'essayer d'accrocher, de rentrer un petit peu dans son univers.
Vous avez des animaux, vous, Alissa, du coup ? Oui. Et j'accompagne aussi, moi, des personnes qui ont des besoins d'hospitalisation régulière, et la question des animaux se pose. Les gens me disent, j'ai besoin d'une hospitalisation, mais je ne peux pas, parce que j'ai mon chien, parce que j'ai mon chat, j'ai personne pour s'en occuper. Donc l'hospice, c'est aussi une alternative d'une hospitalisation adaptée en fonction de vos besoins.
C'est tout à fait ça.
C'est vrai ? Vous avez un chat ? Je suis un peu curieux.
J'ai un chat, j'avais un lapin du coup.
Oui. Vous avez un chat ?
Oui, un chat.
Et on peut donner un nom, hein ?
Il s'appelle Snow.
Snow. J'adore les détails. Donc ça vous a permis de rester chez vous ?
Oui.
Et avoir le soutien et rester avec votre animal, parce que sinon, il faut trouver des solutions, c'est complexe pour les personnes.
Bah après, j'avais aussi ma sœur, et ça a permis aussi qu'elle ne soit pas toute seule, parce qu'il y a aussi l'entourage qui est impacté quand nous, on est hospitalisés. Donc qu'elle soit toute seule aussi à la maison, aussi, ça lui pesait un peu, donc le fait que je sois là, ça l'aidait aussi.
Et c'était quoi les retours du coup de votre environnement ? Est-ce qu'ils préfèrent que vous soyez hospitalisés chez vous ? Ou que vous soyez hospitalisé dans un service spécifique, est-ce qu'il y a eu des retours de votre environnement, des gens qui sont autour de vous, la famille, les amis ?
Moi, j'ai eu quelques retours. Je sais que, du coup, quand il y avait le speed, par exemple, ma sœur qui a été là tout le long, elle a vu que ça m'aidait quand même beaucoup. Et au moment où elle voyait que ça allait vraiment pas, elle a demandé l'hospitalisation en hôpital, du coup. L'entourage aussi voit comment ça s'améliore ou pas.
Ils voient les nuances. Ouais. Ils se disent, ah là, peut-être qu'il y aurait besoin d'une hospitalisation, peut-être qu'il faudrait faire appel au speed. Voilà, on est dans cette nuance-là. Pour vous aussi, Catherine, ça s'est passé comme ça ? Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui ont trouvé que c'était quelque chose d'adapté ?
Je vis avec mon compagnon, et à chaque fois que les infirmières venaient, lui s'effaçait pour nous laisser... en intimité avec Isabelle ou Laurence.
Et il préfère.
Non, il était. J'ai aucun souvenir, donc ça a dû se passer très bien en fait. Mm-hmm. Non, ça ne gênait pas qu'elle vienne, au contraire.
Ça rassurait aussi finalement en fait que aussi vous puissiez rester à la maison ou malgré des difficultés.
Ça lui était complètement indifférent.
D'accord.
Du moment que la formule engagée soit adaptée à mes demandes, c'est un homme donc ils n'ont pas toujours. Des aptitudes à comprendre la maladie mentale.
Allez, encore une vérité qui tombe. Je vois bien
c'est
ce que...
C'est vrai, c'est très abstrait, la maladie mentale.
Ah, c'est...
Faut le reconnaître.
Oui, hein, oui, oui.
Donc, des fois, pas les hommes, mais les conjoints sont complètement... déroutés par... Parce que c'est abstrait, c'est complètement abstrait, on comprend pas.
C'est pas palpable, c'est pas si évident que ça. Il n'y a pas un petit traitement pour 3 semaines qui fait qu'après, hop, on sort d'un rhume ou quelque chose comme ça.
Oui, complètement.
Il y a des cycles de la maladie qui sont difficiles à cerner.
Il y a besoin d'accompagnement aussi, quoi, par moment. Donc, c'est pas forcément facile à accepter.
Mm. Et moi, j'en ai eu besoin du... J'ai besoin eu du SPID parce que j'ai changé de traitement, en fait.
D'accord.
J'ai changé de traitement et le changement de traitement m'a entraîné un besoin de beaucoup plus parler à des professionnels. D'accord. Parce qu'à l'époque, j'habitais dans une ferme à la campagne, ouais. Que je voyais personne.
Ouais.
Et n'avoir comme seul interlocuteur mon compagnon qui était complètement largué dans ce que je ressentais. Donc c'était bien qu'il y ait des personnes extérieures qui viennent de temps en temps à la ferme.
Des personnes extérieures qui sont aussi, forcément de par leur métier sensibles à la santé mentale et puis aussi qui ont des compétences... Pour pouvoir écouter, etc. Ouais, j'imagine que c'est rassurant.
En fonction de la demande, j'imagine que vous travaillez du coup aussi directement avec l'environnement. Si le conjoint de Catherine souhaitait participer aux entretiens, c'est des choses qui auraient pu être possibles.
Oui, tout à fait. Alors déjà, à l'entretien d'accueil, là, quand on fixe les modalités de la prise en soin, en général, s'il y a une personne ressource, elle est invitée à venir, elle est fortement invitée à venir. Et puis elle signe aussi le petit contrat où on s'engage les uns et les autres. Et après, au moment des visites, c'est fonction des personnes. Donc souvent, il y a un moment avec la personne qui est suivie. Et puis, il peut y avoir un moment aussi avec les personnes ressources, les personnes qui vivent sous le même toit.
Et est-ce qu'il peut y avoir aussi, quand on parlait des personnes ressources, sur l'environnement un peu plus large, c'est-à-dire, je ne sais pas, le médecin traitant, enfin, je le rappelais tout à l'heure aussi, les infirmières libérales pour un relais... parce que vous allez partir, vous, l'idée. Non.
Alors, au moment de l'entretien d'accueil, il y a le médecin du SPID qui envoie un courrier au médecin traitant. D'accord. Pour l'informer de la prise en soin du SPID.
C'est hyper important, ça.
Oui. Et pareil, il y a un courrier d'envoyer à la fin de la prise en soin. Voilà. Et nous, tout au long du suivi, et de l'accompagnement, on est en lien avec les infirmières libérales, avec le médecin traitant s'il y a besoin, les assistants sociaux, enfin tout le réseau sur le secteur et dont les personnes ont besoin si c'est nécessaire.
D'accord.
Une infirmière libérale lambda peut intégrer le...
Non, elle va pas intégrer le dispositif du SPID, mais on va travailler avec elle si jamais il y a besoin d'un accompagnement au niveau du traitement au journalier ou semainier. Du coup, nous, on va se mettre en lien avec cette infirmière,
d'accord.
Puisque nous, on ne va pas, par contre, délivrer les médicaments.
Oui, vous ne faites pas aucune
injection.
Non,
on ne fait pas de soins.
C'est court de mois. C'est vrai que
pas
c'est court de mois pour mettre tout ça en place. Je trouve que c'est très court de mois pour mettre tout ça en place. C'est vrai qu'après qu'il y a un suivi CMP, qu'on a pu comprendre, des infirmières libérales qui viennent soutenir à domicile, mais ce n'est pas du tout les mêmes accompagnements, ce n'est pas la même temporalité. Un service comme le SPID, je suis assez impressionné de voir que ça se mette en place. Je trouve ça très intéressant pour les patients. J'ai l'impression que ça donne plus de liberté aussi aux gens hospitalisés de choisir une méthode qui leur convient. Est-ce que vous n'avez pas beaucoup de demandes justement sur les gens qui sont hospitalisés pour faciliter une sortie ? J'ai l'impression que tout le monde aurait besoin de SPID pour revenir chez soi. Des moments qui sont assez douloureux pour les personnes. Je passe d'un cadre sécurisé, comme on a pu dire tout à l'heure, mon chez-moi et sa réalité. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de demandes.
Alors oui, il y a beaucoup de demandes qui émanent d'une hospitalisation, mais il y a aussi des demandes qui émanent des urgences ou de consultations avec les psychiatres. Mais oui, c'est rassurant pour les personnes qui ont été hospitalisées aussi de ne pas être lâchées, entre guillemets, chez elles. Du coup, d'avoir nos passages, en général, ça les rassure. Parce qu'on va baliser un petit peu le quotidien, on les accompagne.
Donc, 10 personnes en même temps ?
Non, plus.
Allez, 15
plus, ou une bonne quinzaine.
Une bonne quinzaine. Oui. Et puis un renouvellement, un fil actif de tous les 2 mois, tous les mois et demi, 2 mois, il y a des changements.
Alors non, ça ne se fait pas comme ça, ça se fait au fur et à mesure. Parce
oui, c'est ça, c'est en fonction de l'arrivée, de l'accueil.
Il suffit qu'il y ait des fins de prise en soin. Mmh. Du coup, on va pouvoir avoir une file active un peu plus élevée. Un peu plus importante si jamais on a pas mal de prises en soins qui sont vers la fin, parce qu'on va les voir, les visites sont moins fréquentes.
Moi, je vais revenir un peu peu sur votre expérience professionnelle. Enfin, comment vous le vivez, ce nouveau dispositif? Enfin, est-ce que ça vous change beaucoup du CMP, par exemple? Enfin, vous qui aviez une expérience CMP, est-ce que ça vous redonne un dynamisme, une nouvelle aventure, quoi, professionnelle, quoi.
Pour
voilà,
vous
c'est
aussi.
Ça que je voulais revenir sur ça.
Eh ben oui, parce qu'on a toutes, comme le disait Florence, un parcours différent, en psychiatrie. Moi, personnellement, j'arrivais de l'unité d'hospitalisation, mais j'avais fait énormément de CMP aussi auparavant. Donc oui, ça redynamise. Et puis oui, comme tu le disais aussi, Florence, c'est vrai qu'avec le CMP, on a déjà l'habitude d'aller chez la personne, d'aller à domicile. Mm-hmm. Mais là, c'est vraiment une prise en soin, enfin, sur le moment où on va dire, une période de crise.
Oui, de l'aigu un peu.
Oui,
quoi.
De l'aigu.
C'est de l'aigu à l'extérieur, voilà. Donc ça doit être...
Et dès que l'aigu est passé, nous, on laisse la place au CMP, justement, à l'hôpital de jour, aux différentes...
Aigu, je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde. C'est bien quand la crise est au sommet, quand les gens ne vont pas bien du tout, c'est ça, être en crise.
Oui, j'ai envie de dire ça.
Oui, ils vont pas bien du tout, mais en même temps, ils peuvent rester chez eux.
Oui,
dans notre cas,
il y a pas de risque.
Voilà, il faut pas qu'il y ait des risques majeurs.
Ça, c'est
sinon,
vraiment
c'est
important, de le repérer.
Oui.
Oui, d'accord. Bon, est-ce que vous souhaitez qu'on écoute une deuxième chanson de
Léni,
un deuxième titre qui s'appelle Ibis. À toi, Léni. On se retrouve pour finir un petit peu cette interview avec le SPID et les personnes qui sont accompagnées par ce service. Alissa, vous souhaitiez rajouter quelque chose concernant l'accompagnement que vous avez pu avoir?
Oui, donc moi, pendant mon accompagnement, du coup, elles sont venues chez moi pour m'accompagner, que je discute, tout ça. Mmh. Et il se trouve qu'à un moment, j'ai essayé de reprendre le travail et que je me retrouvais dans des situations assez compliquées, à stresser avant d'aller au travail, à ne pas vouloir aller au travail, tout ça. Et où elle m'avait prévenu que je pouvais les appeler, les joindre à tout moment. Donc je les ai contactés à chaque, toute la semaine avant d'aller au travail. Mmh. Et elles m'ont aidé à ce que je puisse rentrer dans l'entreprise, me changer, puis aller à mon travail. Donc à travailler, elles encouragent vraiment beaucoup à avancer dans notre vie Et c'est important, enfin je trouve ça important qu'on puisse les contacter assez souvent, les voir souvent.
C'était joignable.
Oui.
Ouais, c'est ça, c'est de rester joignable, parce que c'est vrai qu'un accompagnement au CMP, j'imagine que c'est pas, faut passer, voilà, on n'a pas de portable. Enfin là vous avez un portable, vous pouvez passer par texto, etc. Vous êtes servi ça des.
Par message pas trop, mais plus par téléphone.
Bon, ouais, en tout cas c'est important d'être joignable. Alors pas 24 sur 24, c'est ce que j'ai compris.
On a un portable avec, on dit un portable du matin, un portable du soir, enfin on a un numéro et on est joignable effectivement de 9h à 17h, du lundi au samedi. Et autrement, on a toujours, quand je parlais du petit contrat, on donne une petite fiche de soins avec justement ces numéros et puis les numéros à contacter en dehors de ces horaires. Donc il y a les UMP, les urgences médico-psychologiques. Et sinon, si les gens sont passés par l'hospitalisation, comme ils connaissent bien l'unité d'hospitalisation, qu'ils ont des référents, on leur dit aussi qu'ils peuvent appeler l'unité de...
Le week-end, par exemple.
Voilà, ou la nuit, ou choses comme ça. Et puis après, ils peuvent nous laisser des messages, mais ils savent très bien qu'on les aura. S'ils appellent un message à 23h, on l'aura dès le lendemain matin et on répondra. Voilà. Mais on essaye effectivement d'être assez réactif dans les messages.
Un service qui est ouvert le samedi, c'est très rare. Ça doit être intéressant comme besoin au niveau des patients, des personnes accompagnées. C'est un plus pour vous de pouvoir travailler le samedi ?
En fait, l'ouverture le samedi, c'est quand il y a eu, par exemple, des gens qui sont sortis le vendredi, parce que ça arrive qu'en fin de semaine, il y a des sorties. Et du coup, c'est long, samedi, dimanche, sans accompagnement. Donc du coup, c'est pour ça que ça a été mis en place. Et puis pour certains, ça permet qu'on rencontre les familles, hein, parce oui. qu'il y a aussi des jeunes qu'on accompagne. Et du coup, si les parents travaillent, ou du coup, on a le milieu familial qui est là, ou si le conjoint est absent en semaine, routier, ou etc. Du coup, ça permet de travailler avec la famille... Voilà. Et après, le samedi, les horaires, enfin, on fait 9h-17h, mais c'est assez variable en fonction de la demande, en fait.
D'accord.
Et pour intégrer votre service, comment je fais ? Par exemple, moi, j'ai une personne dans mon environnement. Je me dis, ça serait super qu'elle puisse avoir ce soutien sur quelques mois. Ça lui permettrait de passer une étape importante, un stage, une expérience professionnelle. Comment je vous rencontre ? Est-ce que je vous trouve à l'hôpital ? Est-ce que je vous trouve comme ça, dans un café ? Comment je fais pour vous contacter ?
Donc, il faut une indication médicale. Donc,
je passe par mon médecin psychiatre.
Si vous en avez un, oui, vous passez D'accord. par le médecin psychiatre. Du coup, on a un papier en fait, avec une proposition d'admission en, fait, en indiquant ce qui pourrait être intéressant. En fait. D'accord. Et puis du coup, nous, en fonction de la proposition, on voit ça, toute l'équipe, en fait, voir si ça peut, si ça peut répondre, si on vous rencontre avec une personne de l'entourage. Et puis du coup, on vous propose les choses et puis ça se met en place.
Ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on offre une solution supplémentaire aux personnes. Il y a vraiment cette possibilité-là d'avoir un accompagnement chez soi. Est-ce que Catherine, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Sur quoi ?
Sur le fait d'avoir eu ce suivi à domicile, de ne pas être forcément passé par la case hôpital. Qu'est-ce que ça a pu changer dans votre parcours ?
Dans mon cas, j'étais un petit peu en manque de relations humaines, étant isolée dans ma ferme.
Mmh.
Et moi, le fait de rencontrer du monde tous les jours, ça m'a comblé un vide.
Mmh.
Bon, contrairement à Alicia, moi, je suis retraitée. Et donc, et puis les traitements qu'on prend sont parfois un petit peu lourds, un petit peu... on est un peu au radar les premiers jours.
Mm-hmm.
Et donc, Isabelle et Florence me stimulaient en me disant « Mettez-vous des objectifs tous les jours ». Et essayez de vous y tenir, ça vous permettra d'avancer, de vous libérer de vos gènes que vous évoquiez, etc., etc.
On voit bien la démarche du petit pas. On va avancer ensemble, on va monter, on vise pas très très haut, mais on avance ensemble à la vitesse de chacun. On voit bien je vois le petit escalier avec les petites marches qu'on monte ensemble. J'ai cette image en tête. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est ça ?
Oui, c'est exactement ça.
En hospice, en plus, c'est vrai qu'on se laisse un peu porter. On en a besoin des fois, mais c'est vrai que les repas sont faits, le ménage est fait. Enfin voilà. Enfin voilà, il y a cette dynamique sur l'extérieur que vous pouvez maintenir et c'est hyper important. Je pense quand on n'est pas bien, d'avoir quelqu'un qui vient vous dire, allez hop, à domicile, on se doit de continuer à avancer. Avec des petits pas.
Les petits pas.
Les petits pas.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait un petit mot de conclusion de chacun ? Est-ce que Alissa voulait dire quelque chose pour conclure ?
Bah, je sais pas, moi. pour moi, je recommande le speed pour les personnes qui en ont vraiment besoin, parce que, bah, par exemple, au niveau de la notion de confiance qu'on parlait tout à l'heure, l'accorder aussi vite, c'est parce que aussi, en tout cas, nous, les infirmières qu'on a, elles sont quand même assez douées et que elles mettent en confiance. Donc, les personnes qui en ont vraiment besoin, moi, je conseille ce programme.
Vous conseillez le programme. Et vous, Catherine?
Et moi, je vais dire que le speed ne serait pas le speed sans les personnalités d'Isabelle et de Florence.
Et Jessica, peut-être, qui est absente aujourd'hui.
Et Jessica, que je n'ai pas eu la chance de connaître.
D'accord.
C'est vraiment lié aux infirmières.
C'est de l'humain avant tout.
Tout à fait.
Vous cherchiez du lien et le lien est arrivé.
Oui, tout à fait.
Ça sort du soin, quasiment.
C'est du lien. Mais ce qu'il est en grande partie dans les pathologies mentales, c'est tout est dans la qualité de la relation humaine. Ouais. Hein, tout est là-dedans. Et pour ça, Isabelle et Florence savent très bien faire.
Bon, d'excellentes professionnelles.
Qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces fleurs, mesdames?
On va vous remercier déjà d'avoir accepté de venir aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. Voilà, de témoigner.
Merci Alissa et merci Catherine. Ouais. D'avoir pu échanger sur votre expérience au niveau du speed.
Bon, bah, nous aussi, on va vous remercier. Un petit mot de conclusion.
Merci à vous, effectivement. C'est intéressant aussi d'avoir votre retour, parce qu'on a pu échanger, mais pas forcément de cette manière-là. Donc, c'est intéressant. Merci à vous d'être venu.
Un beau message d'espoir encore aujourd'hui.
Ouais, super.
Merci.
Merci. Au revoir.